134 athlètes, 121 nations réunies. Un record. Les Jeux Olympiques de 1972 à Munich doivent être ceux de tous les possibles. Ceux de la réconciliation aussi. Ceux enfin qui feront oublier les JO de Berlin de 1936, vitrine de l'Allemagne nazie. Malheureusement, ces 20e Olympiades vont tourner au drame. L'aube du 11e jour de la compétition pointe à l'horizon. À 4h35, un premier coup de feu est tiré dans le village olympique. Il passe inaperçu. Nous sommes le 5 septembre 1972. Il est 4h35 et c'est l'heure H de mon histoire. En avril 1966, quand le Comité Olympique International, le CIO, confie à Munich l'organisation des 20e JO de l'ère moderne qui se tiendront en 1972, donc, les responsables allemands sont loin de se douter que cette édition sera marquée par une tragédie indélébile. Un drame qui frappera tellement les imaginaires qu'il éclipsera tous les exploits sportifs des athlètes issus de 121 nations. Les organisateurs, tout à la joie d'avoir devancé Madrid, Montréal et Détroit, savent qu'un énorme défi les attend. D'abord, au niveau des infrastructures sportives, pour lesquelles Munich est à la peine. Mais la ville a aussi des soucis au niveau des moyens de transport. L'argent frais débloqué doit redorer l'image de l'Allemagne. Pardon, de l'Allemagne de l'Ouest. Car n'oublions pas que le mur de Berlin est toujours debout et que l'Allemagne est coupée en deux. On estime à peu près à 1,35 milliard de marks, soit près de 500 millions d'euros actuels, le budget total pour accueillir les JO en RFA. Au-delà du nouveau souffle donné aux infrastructures munichoises, les Allemands puisent une source de motivation dans le fait qu'il faut absolument essayer d'effacer de la mémoire populaire l'image des derniers JO, ceux de 1936 à Berlin, bien sûr, qui ont servi de propagande géante à l'idéologie nazie. C'était il y a 36 ans, mais en 1972, Munich porte encore le sceau infamant de capitale du mouvement nazi. Dans une ville qui se veut désormais cosmopolite, l'emblème de ces jeux est pensé pour symboliser la fraîcheur et la générosité. On opte pour une couronne de rayons de lumière. La mascotte qui fait pour la première fois son apparition lors des JO est dans le même esprit. Waldi, c'est son nom, est un teckel, animal très populaire en Bavière, aux couleurs pastel, pour mettre en exergue gaieté et engouement. Un contexte périphérique, loin du drame que je m'apprête à vous raconter? Non. Non, car cette ouverture d'esprit et cette volonté de montrer un Munich chaleureux incitent les organisateurs allemands à imaginer un village olympique accueillant, ouvert, avec donc des mesures de sécurité moindres, moins visibles. Pour la délégation d'Israël, présente au JO de 1972, la sécurité est pourtant une donnée importante. Les Israéliens savent que la situation politique internationale et les tensions avec le monde arabe font d'eux une cible privilégiée. Quand en mai 1948, après le vote du plan de partage de la Palestine, l'ONU attribue aux Juifs une terre, Israël, la situation est directement inextricable entre un monde arabe indigné et l'obligation morale de trouver un pays aux Juifs après la Shoah. En 1967, l'issue de la guerre des six jours qui voit Israël vaincre trois pays et étendre son territoire lance un nouveau type d'action envers les Israéliens, le terrorisme. D'escalade en escalade, la tension est palpable autour de cet État situé sur la pointe orientale de la mer Méditerranée, au Proche-Orient. Ses ressortissants sont pris pour cible partout dans le monde. Seulement, la police allemande ne prend pas cette menace véritablement au sérieux. Trop naïve, trop passive et incroyablement inexpérimentée dans un pays où on pense qu'efficacité et rigueur vont automatiquement de pair. Devant les rapports du Mossad, le service de renseignement israélien, faisant état de menaces vis-à-vis des membres de la délégation de son pays, Golda Meir, première ministre israélienne, alerte Willy Brandt, le chancelier allemand. Ce dernier l'assure que la menace sera prise en compte et que la délégation sera protégée. Israël, ne détache donc pas ses forces spéciales pour encadrer ses athlètes. On ne voulait pas gâcher la fête, se souvient le porte-parole de Golda Meir. On comptait vraiment sur les Allemands. On ne voulait pas créer de problème. L'Allemagne, pourtant, ne prend pas de précautions particulières pour protéger le village olympique d'une intrusion. Il n'y avait aucun policier dans le village, se souvient un membre des forces de l'ordre allemandes. Très vite, les athlètes ont circulé entre les villages olympiques masculins et féminins. Ils étaient jeunes, ils devaient bien s'amuser. Les gens ont fermé les yeux. La promesse faite par Willy Brandt à Golda Meir ne connaît donc aucune traduction sur le terrain. Aucune. Et jugez plus tôt. À 4h30 du matin, le 5 septembre 1972, le commando palestinien Septembre Noir pénètre dans le village olympique. Un coup de force et une complicité, un plan savamment échafaudé. Rien de tout ça. Il suffit aux 8 membres de ce groupuscule de se vêtir de survêtements et de se faire passer pour des athlètes en goguette revenant tardivement de soirée. Ils portent des sacs remplis de grenades, de fusils d'assaut et de pistolets. Ils y ont aussi mis des cordes et de la nourriture. Un des sacs, qui a été récupéré la veille à la gare de Munich, est même un peu déchiré. N'importe qui aurait pu voir dépasser une des Kalachnikovs. Mais personne ne voit rien. Les athlètes, probablement canadiens, que rencontrent les attaquants à l'entrée du village olympique, ne se doutent de rien, eux non plus. Ils les prennent pour des homologues et leur montrent la voie, en se faisant la courte échelle pour franchir la clôture. Les pinces pour couper le grillage que les Palestiniens ont pris avec eux ne servent donc à rien. Ils s'avancent jusqu'au numéro 31 de la Connolly-Strasse. Ils ont volé auparavant les clés des deux appartements où doivent dormir les représentants d'Israël, mais cette fois encore, ils ne doivent pas s'en servir. Ils empruntent tout simplement une porte ouverte. Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, réfugié au Liban, est au courant de l'opération. Elle est supervisée par un certain Salah Khalaf. On était ceux qui allaient changer la société, raconte Mohamed Safadi, un membre du commando. On devait réécrire l'histoire officielle, changer ce que les gens pensaient de nous, cette image de peuple brisé. Un jour, Salah Khalaf nous a dit que nous allions tous partir en voyage. Les commandos quittent d'abord le Liban pour la Libye, où ils suivent pendant 2 mois un entraînement intensif. On devait se battre au nom de la Palestine. On ne nous a pas dit où on allait, ni ce qu'on devait faire. On n'a rien su jusqu'à quelques heures avant le déclenchement de l'opération. On pensait à rien, mon chéri Samir, autre membre du commando. Pendant tout le voyage, jusqu'à Munich, nous étions juste concentrés sur notre objectif. À nos yeux, l'Occident avait colonisé le monde, le tiers-monde dans lequel on vivait. Grâce à son habileté pour grimper avec des cordes, Mohamed Safadi se fait appeler Tarzan. Il fait partie des 300 000 Palestiniens recasés dans des camps en Jordanie et au Liban après la guerre des Six Jours. Avec sa famille, il s'est retrouvé à Shatila, un camp de réfugiés situé à Beyrouth, dans lequel les conditions de vie sont très difficiles. Il raconte ceci. Israël avait incendié nos maisons, détruit notre pays et volé notre terre. Ma famille m'a toujours répété, tu as une terre en Palestine, c'est ta patrie. J'étais tout petit. Mais j'avais cette idée de la Palestine en tête, comme tous les autres. Et tous les autres, ce sont ses camarades armés qui, déterminés, se trouvent dans le hall de l'immeuble au 31 de la Connolly-Strasse, dans le village olympique. Ils connaissent depuis quelques heures le but de l'opération. Prendre en otage la délégation olympique israélienne, soit 28 personnes en tout. Ils trouvent une porte où sont inscrits plusieurs noms de membres de l'équipe israélienne. Sonne. Quand l'athlète Yosef Gutfreund entrouvre la porte devant le danger qu'il identifie rapidement, il tente de la refermer aussitôt. Il lutte, mais des coups de feu le font céder. Il est 4h35. Les premiers coups de feu ont été tirés dans le village olympique munichois et ce ne seront pas les derniers. Yosef Gutfreund résiste donc malgré les tirs. Il a gagné assez de temps pour que l'entraîneur d'haltérophilie, Tuvla Sokolovski, ait le temps de briser la fenêtre et de s'enfuir. Le commando parvient, malgré la détermination de Yosef, à entrer dans l'appartement. Ses occupants sont ligotés. Moshe Weinberg, blessé à la joue par les premiers tirs, doit montrer aux attaquants où logent ses compatriotes. Il passe devant l'appartement numéro 2 et ment, disant que ce ne sont pas des Israéliens qui l'occupent. Il montre le logement numéro 3, occupé par des lutteurs et des haltérophiles, en espérant que ces athlètes, physiquement costauds, puissent s'interposer. On ne le saura jamais. Encore endormis, les lutteurs et haltérophiles sont pris au dépourvu. Les coups de feu ne les ont pas alertés. Moshe Weinberg, voyant que son plan a probablement été déjoué, tente un nouveau coup de force. Il est immédiatement abattu. Dans la confusion, Gad Tsobari, un autre athlète, parvient à fuir. Dans l'appartement numéro 2, on s'agite. Des coups de feu ont été entendus, mais on ne sait pas d'où ils proviennent. On ne se doute pas de leur si grande proximité. Je me suis levé et j'ai passé un maillot d'entraînement, se souvient Zelig Stork, concourant au tir à la carabine. Et il continue. Par chance, il n'y avait pas de logo identifiant mon pays à l'avant, mais bien dans le dos. J'ai été à la salle de bain et je me suis brossé les dents le plus normalement du monde. J'ai ensuite pris l'escalier et je suis sorti de l'immeuble. Dehors, j'ai regardé autour de moi. Tout était calme, tout le monde dormait. J'ai vu ensuite un homme sortir de l'appartement numéro 1. Il avait un bob sur la tête et une grande chemise. Il s'est approché à 2 mètres de moi et m'a demandé en allemand où était la police. Je lui ai dit, ce qui était vrai, que je l'ignorais. Son visage était étrange, comme grimé. Il avait en main des feuilles et sous elles un canon de pistolet qui me pointait. Il a tourné les talons et est rentré dans l'appartement. Si je m'étais retourné avant, il aurait vu le nom d'Israël inscrit au dos de mon maillot. Je suis rentré dans mon appartement et j'ai réveillé les autres gars de ma chambre qui dormaient. Je leur ai dit « Réveillez-vous, on est attaqué par des terroristes ». Shaul Ladani, qui savait que j'étais un bout en train, s'est marré et s'est retourné dans son lit. Mais très vite, Shaul se lève. Seul rescapé de l'Holocauste présent dans la délégation israélienne, il va voir dehors. Devant la porte, j'ai vu des membres de la sécurité du village olympique. Ils étaient 4, dont 2 femmes. Non armés, ils parlementaient avec les terroristes pour que les membres de la Croix-Rouge puissent soigner les blessés, qu'ils fassent preuve d'humanité. Les Juifs ne sont pas humains. Cette phrase, lancée par les terroristes aux premiers émissaires, sonne comme une fin de non-recevoir. Les secours peuvent juste emporter le corps de Moshe Weinberg, qui a été brutalement jeté dehors. 5h08. Un des terroristes jette des feuilles par la fenêtre de l'étage, écrit en allemand. Jusqu'à midi, des forces de l'ordre affluent au village olympique, des 4 coins de la RFA. Des chars et des voitures de police se postent dans le village olympique féminin. Esther Shahamarov, coureuse du 100 mètres haies qualifiée pour les demi-finales qui suscite l'enthousiasme au pays, est une des 2 athlètes féminines d'Israël. Elle raconte. On est parti se réfugier, pourtant à l'extérieur, j'ai rien vu d'étrange. Il y avait des athlètes qui s'échauffaient, d'autres qui jouaient au ping-pong, tout paraissait normal. Mais j'avais peur que des gens se cachent quelque part, qu'on essaie de m'enlever, de me faire du mal. D'autres terroristes étaient-ils planqués quelque part? Pendant ce temps-là, les négociations ont commencé. Alors que les terroristes ont regroupé tous leurs otages dans l'appartement numéro 1, Shaul Ladani et Zelig Stork sont toujours dans l'appartement numéro 2, miraculeusement oubliés par le commando. Shaul Ladani s'enfuit et dit ceci. Je me souviens que je me suis dit que j'étais vraiment un lâche. Son compagnon de chambrée, lui, reste. Et vous vous souvenez de sa discipline, le tir à la carabine? Il témoigne. Je suis resté seul. J'ai chargé ma carabine et me suis posté derrière le rideau. Je voyais leur commandant, Issa, qui n'arrêtait pas de sortir pour parler à la sécurité du village. Il n'y avait aucun obstacle. La vue était dégagée. J'aurais pu l'atteindre d'une seule balle. J'aurais pu l'abattre sans même viser. J'aurais pu arrêter tout ça. J'ai l'impression que cet instant a duré une éternité. Mais il ne s'est écoulé qu'une ou deux minutes. Si j'avais tiré, ils auraient immédiatement abattu tous les otages. Si un seul de mes camarades avait été tué, j'aurais porté le poids de la culpabilité. Il a fallu des années pour comprendre que j'avais fait le bon choix. Du moins, de mon point de vue. Un proverbe dit « Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier ». Si j'avais tiré, ça aurait peut-être tout changé. C'était un dilemme. Il me hante encore. En tout cas, j'ai les mains propres. Je n'ai jamais tué personne. Fondé en 1970, le commando Septembre Noir s'est donné ce nom à la suite des événements sanglants de septembre 1970 en Jordanie, appelé également Septembre Noir. Cette organisation est affiliée au Fatah, le parti politique nationaliste palestinien. Elle s'est spécialisée dans le terrorisme international, avec comme acte fondateur l'assassinat du premier ministre jordanien Wasf Ittal, considéré comme responsable du massacre de Palestiniens en Jordanie. Quelques mois avant la prise d'otage de Munich, Septembre Noir passe pour la première fois à l'attaque en Europe en détournant un avion de la Sabena qui décolle de Vienne. L'avion est dérouté vers Tel Aviv, où il se pose à l'aéroport Ben Gurion. Les quatre terroristes menacent de faire exploser le vol 571 si 315 prisonniers palestiniens ne sont pas libérés. Un commando israélien, composé de deux futurs premiers ministres de l'État hébreu, Ehud Barak et Benjamin Netanyahou, donnent l'assaut. Un otage est tué, deux terroristes abattus et deux autres arrêtés. À Munich, en 1972, l'assaut des Palestiniens se solde par la prise d'otages de 9 membres de la délégation israélienne. Deux jours avant la prise d'otage, Yosef Romano, un haltérophile, a prévenu sa femme et mère de ses trois enfants qu'il allait bientôt rentrer. En pleine compétition, il s'est déchiré un ménisque. Il avait déjà promis auparavant. Les JO de Munich seront sa dernière compétition. Le 5 septembre, on a frappé à ma porte, explique Ilana Romano, l'épouse de l'haltérophile. J'étais persuadé que c'était un télégramme m'avertissant de l'heure de son retour et me demandant de venir le chercher à l'aéroport. C'était ma voisine sur le pas de ma porte. Elle m'a demandé si j'avais entendu ce qui se passait en Allemagne. J'ai appelé le comité olympique israélien qui m'a dit de ne pas m'inquiéter. Si Moshe Weinberg était bien mort, les terroristes n'avaient envahi que l'appartement des entraîneurs et des arbitres. Mais je savais que si Yosef avait été libre de ses mouvements, il m'aurait déjà appelé. Je savais qu'il ne se laisserait jamais mener à l'abattoir comme un mouton. Je connais trop bien Yosef. Funeste pressentiment. Malgré ses béquilles, Yosef Romano se révolte. Il essaie de s'emparer de l'arme d'un terroriste et l'attaque avec un couteau à fruits. Est-ce Mohamed Safadi ou Lutif Afif, dit Issa Kitir? Les témoignages diffèrent. Mais une chose est certaine. Un deuxième Israélien tombe et il s'agit de Yosef Romano. Ce ne sera pas le dernier. Le commando a posé ses conditions, ou plutôt sa condition. La libération de prisonniers palestiniens. Elle doit intervenir avant midi. Et c'est non négociable. Malgré tout, évidemment, on négocie. Une cellule de crise est mise en place par le gouvernement ouest-allemand. Elle est dirigée par le chef de la police munichoise, Manfred Schreiber, également responsable de la sécurité des JO. Il est accompagné par le ministre fédéral de l'Intérieur et par le ministre de l'Intérieur bavarois. Ils ont affaire à Issa, qu'il qualifie d'intelligent, de très correct, et parlant très bien allemand. Manfred Schreiber, le ministre fédéral de l'Intérieur, et des membres de son cabinet se proposent pour remplacer les otages. De l'argent, beaucoup d'argent est aussi offert. Selon un journaliste, la réponse est « L'argent ne signifie rien pour nous. Nos vies ne signifient rien pour nous. » Golda Meir, la première ministre israélienne, est inflexible. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura jamais de négociation avec des terroristes. Et comme les Palestiniens dont le commando réclame la libération sont détenus dans les prisons de l'État hébreu, les négociateurs allemands sont dans une impasse. Ils n'ont aucune marge de manœuvre. Céder n'aurait fait qu'encourager ces types d'organisation, soutient le porte-parole de Golda Meir. Cela ne ferait qu'encourager les attentats contre Israël. Depuis la guerre des six jours, nous étions la cible d'attentats. Yael Gutfreund, la fille de l'entraîneur d'haltérophilie pris en otage, est beaucoup plus critique. Golda Meir n'a rien fait, rien du tout. Si son fils avait été à la place de mon père, est-ce qu'elle aurait dit qu'elle s'en fichait? Parce que c'est ce qu'elle a fait, en somme. Si le monde est consterné par cette prise d'otage, certains pays arabes se félicitent de cette démonstration de force. Les Palestiniens peuvent être forts, témoigne Taoufik Tiraoui, ancien chef des renseignements du Fatah, le parti nationaliste palestinien proche de Septembre Noir. Les Palestiniens peuvent traverser le monde pour lutter contre ceux qui les ont agressés, pris leurs terres et opprimés leur peuple. S'ils ont menacé d'exécuter deux otages toutes les heures, si leurs revendications ne sont pas rencontrées, les preneurs d'otages acceptent toutefois de repousser leur ultimatum. Le comité olympique, lui, patauge. Deux Israéliens ont été abattus. Neuf autres sont détenus dans des conditions plus que problématiques. Malgré cela, les Jeux ne sont pas suspendus immédiatement. À 8h15, comme si de rien n'était, une compétition de dressage hippique a lieu. La prise de conscience du CIO va se faire lentement, mais jettera un voile à tout jamais sur des décisions terriblement tardives. Deux otages.